Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero, ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir, ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
Le deuil périnatal, c'est l'histoire d'une perte. Perte de l'enfant désiré qu'on s'était imaginé, perte de l'insouciance et de la naïveté, c'est la fin de toutes les projections qu'on s'était faites, c'est le deuil de l'avenir, comme on dit souvent. Le deuil périnatal, c'est aussi cette question qui reste en suspens. Comment envisager la vie et l'avenir maintenant qu'on a côtoyé la mort, que l'enfant tant attendu n'est plus là, dans notre ventre ou dans nos bras, maintenant que la grossesse s'est arrêtée et a mis un coup d'arrêt à tout ce que nous avions envisagé. Mais le deuil périnatal, ce n'est pas que ça. Le deuil périnatal, c'est aussi la question de la reconstruction. Et pour se reconstruire, cheminer, essayer de sortir la tête de l'eau, on peut se lancer, parfois, des défis. En recueillant de nombreux témoignages depuis plus d'un an, je me suis rendu compte que le deuil périnatal, comme toutes les épreuves de la vie en fait, nous amène de temps en temps à des choses que nous n'aurions jamais faites avant. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a du positif qui ressort de tout ça, non. Mais il n'empêche que parfois, il peut y avoir des choses belles qui aboutissent. Ce podcast en est la preuve, d'ailleurs, et jamais j'aurais imaginé être capable de mener à bien un tel projet. Avec le recul, on se rend compte qu'on réalise des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé, ou qu'on ne s'autorisait même pas à envisager. Ce sont des petits et grands défis qui permettent, par exemple, de se réapproprier son corps, ou de se ménager des parenthèses de calme, de sortir de sa zone de confort, de reprendre le contrôle sur son quotidien, de se dépasser, de rendre hommage à son bébé, de faire la paix avec cette histoire de parentalité si difficile, parfois, à porter. Maintenant qu'on a vécu le pire et qu'on est là, tantôt vacillant, tantôt chancelant, mais toujours debout et vivant, on se sent de temps en temps capable d'aller plus loin. La liste de ces défis, elle est longue et il y a autant de possibilités que d'individualités. Alors pour ce nouveau format d'Au revoir podcast, j'ai décidé de faire un pas de côté pour vous proposer des témoignages de personnes qui se sont lancées des challenges. Aujourd'hui, c'est Clémentine que vous allez entendre et je vous laisse découvrir son histoire.
On m'avait parlé des larmes, des cris du vacarme. On a évoqué la douleur et les plaies extérieures. On m'avait dit, tu oublieras quand tu le prendras dans tes bras. On m'avait dit que cet amour existerait toujours.
Je m'appelle Clémentine, j'ai 31 ans et j'ai été confrontée au deuil périnatal il y a un petit peu plus d'un an, en septembre 2020.
Il y a eu mes cris puis nos pleurs, une ambiance anxiogène. Ça fait très mal sur tout cœur d'avoir tant de peine. Je l'ai aimé immédiatement comme s'il m'avait jeté un sort. Je suis quand même devenue maman le jour où j'ai donné la mort.
Quand le cœur de mon petit garçon, qu'on avait appelé Timothée, s'est arrêté de battre à 6 jours du terme de ma grossesse. Je me suis rendue à la maternité car je sentais que Mon enfant ne bougeait pas comme d'habitude, beaucoup moins. Donc en général, dans ces cas-là, on fait un monito et on se rend compte que le cœur ne bat plus. Mais moi, ça n'a pas été mon cas. Moi, on s'est juste rendu compte que le bébé bougeait moins que d'habitude, voire même pas du tout. Mais par contre, le cœur, il était toujours là. Donc ils avaient décidé de me déclencher et puis entre-temps, le cœur s'est arrêté. Et donc je suis partie en césarienne d'urgence, anesthésie générale. Et quand je me suis réveillée, on m'a expliqué que mon enfant était décédé. La césarienne, je savais grosso modo ce que ça impliquait, mais uniquement dans un contexte où on a un enfant en bonne santé à la sortie. Et je m'étais pas spécialement rendu compte de la lourdeur de l'opération. Moi, je pensais juste que c'était une manière d'accoucher comme une autre, en fait. Hein, ce qui en est une pour la plupart des cas, mais souvent, on fait pas accoucher les femmes par césarienne quand elles sont confrontées au deuil périnatal. Donc c'est vrai que mon état physique le jour même, je m'en suis pas spécialement rendu compte parce que voilà, j'étais quand même un peu dans les vapes en sortie d'anesthésie générale, puis ça a été vraiment le défilé entre la gynéco qui m'a opérée, la pédiatre, les sages-femmes, les infirmières qui passent nous voir les unes à la suite des autres. Moi, j'étais sur mon lit, je bougeais pas et vraiment la douleur physique, ce que je dis à tout le monde, c'est que je la ressentais pas. J'étais tellement mal moralement que physiquement, je me rendais pas du tout compte de l'état dans lequel j'étais. Le premier choc, ça a été quand une des sages-femmes nous a annoncé qu'il fallait qu'on attende un an avant de retenter l'expérience, que je puisse retomber enceinte. Et ça, ça a été un énorme coup dur, car voilà, on avait attendu cet enfant pendant 9 mois, tout était prêt. Et là, on venait de m'annoncer qu'il fallait que j'attende minimum 1 an plus 9 mois, disons 2 ans parce que ça marche rarement du premier coup, afin de serrer un enfant vivant dans mes bras qui soit le mien. Et ça, c'est d'une violence inouïe. Et on m'a expliqué, bah, c'est parce que quand on a une césarienne, on a une cicatrice au niveau de l'utérus et que si jamais on enchaîne les grossesses, lors de l'accouchement, ça peut créer des ruptures utérines, etc. Enfin voilà, moi j'ai été sidérée d'entendre toutes ces choses-là qu'on m'explique alors que je venais juste de perdre mon enfant, quoi. Et c'était terrible. Mais mon état physique, voilà, sur le coup, je ressentais pas du tout la douleur jusqu'à la nuit, cette fameuse première nuit qui a été absolument cauchemardesque, hein, puisque impossible de bouger alors que moi d'habitude je suis une pile électrique dans le lit. Et voilà, c'est la cicatrice qui tiraille. On a du mal à boire, on a du mal à tousser, alors que voilà, en plus j'avais été intubée évidemment pendant mon opération sous anesthésie. Voilà, c'est tout est quand même très compliqué. Et le premier matin, quand une infirmière et une sage-femme sont venues me voir pour me proposer de prendre une douche, je me suis évanouie dans la douche parce que je me suis levée peut-être un peu trop vite, que j'ai un peu trop cru que ça allait, et voilà, je me suis dit, waouh, en fait, c'est quand même quelque chose d'assez important, quand même, subir une césarienne. Le jour de la mort de Timothée, on s'est posé avec Florent, mon compagnon, et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de notre vie maintenant, en fait, parce qu'on avait tout mis en stand-by pour pouvoir préparer l'arrivée de cet enfant. Et là, on n'était pas prêt à se projeter dans autre chose, quoi. Et donc, on a fait un peu la liste des choses qu'on aurait aimé faire et que finalement, on n'a pas fait. Et moi, c'est vrai que je faisais un peu de sport avant ma grossesse, hein. Même un petit peu au début. J'en avais d'ailleurs fait un petit peu tout le long, mais je faisais plus du yoga, des choses comme ça. Mais avant ma grossesse, ouais, je courais et puis j'avais fait une fois un 10 km, puis une deuxième fois où j'avais fait un score qui était pas mal en tout cas pour par rapport à ce que j'avais l'habitude de courir. Et puis l'étape d'après, quand on a fait 2-10 km, eh bien, c'est de faire un semi-marathon. Et là, évidemment, je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc on s'est dit, bah ouais, ça peut être l'occasion comme ça aussi. C'est aussi une très bonne manière de retrouver un peu son corps, hein, parce que c'est très pénible de ressembler à une femme en postpartum alors qu'on n'a pas d'enfant vivant. J'ai rapidement senti que le corps que j'avais là, il m'allait pas du tout et qu'il fallait que je retrouve une forme physique. Mais je pensais pas vraiment que faire du sport pour faire du sport, ça allait être important. Mais Mais on a aussi surtout abordé ça de la manière où il fallait un peu qu'on occupe cette année qu'on allait avoir sans enfant et sans grossesse pour faire un peu passer le temps dans un contexte où le Covid était encore bien présent. Hein. Je rappelle que l'accouchement était juste avant le deuxième confinement, donc vraiment... On était vraiment en plein dedans, donc difficile de faire des projets, mais par contre, ouais, c'est ça, se préparer pour un semi-marathon, c'est tout à fait envisageable. Donc, on en a repéré un qui était donc en avril, donc le semi-marathon d'Albi. Ça, au niveau des dates, c'était pas mal, ça permettait de reprendre le sport à mon rythme, mais pour autant que ce soit pas non plus une échéance trop lointaine, enfin, en tout cas pas plus d'un an après l'accouchement. Et donc, on s'est dit, bah, vas-y, on fait ça. Et limite, le jour même, on a décidé ça. Et on a aussi décidé qu'on ferait le GR20. Parce que on avait pas mal de potes qui l'avaient fait. C'est vrai que nous, quand ils nous racontaient un peu ces récits de traverser la Corse à pied, bah, ça nous tiquait un peu parce qu'on s'est dit, ah ouais, c'est vrai que nous, ça nous aurait vraiment plu. Sachant qu'on est quand même assez fan de rando. Dès qu'on part en vacances, on est toujours assez actifs, on marche beaucoup. Et ça, c'était pile le type de vacances qui nous aurait plu, mais on n'a jamais pris le temps de le faire. Et finalement, voilà, avec des enfants en bas âge, c'est quand même très compliqué, donc il faut reporter ce projet d'une dizaine d'années, voire plus, quoi. Donc, en fait, on s'est dit, bah, c'est une autre chose qu'on n'a pas eu le temps de faire et qui vaudrait le coup d'être tenté. Donc, en fait, finalement, le jour même de l'accouchement, on a décidé que je ferais un semi-marathon, et qu'ensuite on ferait le GR20 dans la foulée, donc en juin. Donc ouais, moi qui ai toujours été dynamique, ça me donnait vraiment des vrais objectifs ambitieux et surtout ça me permettait de faire passer le temps, d'avoir une routine, de se donner une discipline, etc. Et aussi se focaliser un peu sur autre chose. Et ça c'est ça surtout qui m'a fait du bien, en tout cas au début. Mais en fait, j'ai fini par y prendre goût, quoi, parce qu'en fait, ce qui est bien avec la course, c'est qu'on progresse très vite, et quand on progresse, c'est sûr que c'est beaucoup plus agréable pour le mental, on sent qu'on peut être fier de ce qu'on fait, etc. C'est aussi dit qu'il fallait qu'on se prenne un peu de temps pour nous, pour se retrouver en tant que couple, parce que c'était quand même la priorité, qu'on avait besoin de s'évader un peu. Donc, en discutant avec ma gynéco, elle m'a dit que très rapidement, je pourrais me remettre de cette césarienne, parce qu'en fait, on s'en remet quand même assez rapidement, hein, et ça, c'est le côté positif. Et donc, on a regardé les billets qui étaient disponibles, hein, sachant que juste avant le deuxième confinement, il y avait quand même pas beaucoup de choix. Et puis finalement, on a juste une possibilité pour avoir une destination à peu près au soleil, pour pouvoir décompresser, qui soit ouverte et pour lesquelles il y a des billets pas trop chers, c'était Majorque. Et il se trouve qu'à Majorque, il y a une petite chaîne de montagnes qui est très 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 jolie. Et même si on n'avait pas spécialement prévu de faire de la rando, une fois qu'on y était, que voilà, moi j'avais quand même bien récupéré assez rapidement, on s'est dit, bon, bah vas-y, il y a cette rando, là, elle fait 1000 mètres de dénivelé. On la fait pas jusqu'au bout, mais on commence et puis on s'arrête quand on le sent, quoi. Enfin, quand moi, je le sens, en tout cas. Et en fait, on a fait peut-être 800 mètres de dénivelé, et ça s'est hyper bien passé. Et voilà, c'était un peu plus de 2 semaines après l'accouchement. Ça m'a fait hyper plaisir de voir que mon corps fonctionnait encore, hein, même si il avait pas du tout l'aspect... d'avant la grossesse, mais voilà, il y avait encore quelque chose à en faire de ce corps et qu'il fallait que j'exploite ça. Et puis après, un mois et demi après l'accouchement, je suis allée courir une fois, vraiment pas très longtemps, vraiment pas très rapidement, mais voilà, je voyais qu'en adaptant son rythme, tout était possible en fait. Et puis, petit à petit, j'ai augmenté la cadence, j'ai augmenté le nombre de séances. Une fois que j'ai eu le go de ma gynéco pour m'y remettre, bah je m'y suis remis et puis après c'était parti pour l'entraînement semi-marathon avec 3 séances par semaine, quoi. pour le semi-marathon, j'étais hyper disciplinée, quoi. J'étais dans mon truc. Et vraiment, je me suis imposée une discipline presque militaire. Hein. Même mon copain, il en revenait pas à quel point j'étais assidue à absolument toutes les séances. Je les faisais jusqu'au bout. Et il se trouve que j'ai couru une fois un semi-marathon pendant ma prépa. Donc, c'était 3 semaines avant le jour J. Et que voilà, en 1h58 en fait, j'avais fait la distance, donc je me suis arrêtée, je devais courir 2 heures, je me suis dit bon bah voilà, maintenant ça fait un temps de référence, dans 3 semaines il faut faire mieux. Alors je vous ai parlé du marathon d'Albi, évidemment il était en plein pendant le 3e confinement, donc il a été annulé, et en fait je l'ai fait seule. J'ai une copine qui avait fait ça en fait en janvier, hein, qui voulait courir un marathon à Hawaï et puis qui finalement a été annulé, et puis elle s'est dit bon bah tant pis, foutu pour foutu, je le fais le long du canal du Midi, hein, sachant qu'on habite Toulouse, et je fais les 42 km comme ça le long du canal. Et en fait ça a hyper bien marché, et je me suis dit bah je vais faire pareil, et puis viendra qui viendra, on verra, j'aurai peut-être un comité de soutien. Et puis en fait, j'ai eu un comité de soutien énorme. J'ai plein de potes qui ont couru avec moi, qui m'ont accueilli à la fin. Ça a été... ça m'a fait hyper chaud au cœur. Et là, à ce moment-là, j'ai vraiment senti que je pouvais être fière de moi. J'avais vraiment senti que j'avais accompli quelque chose, quoi. Que j'avais pris un peu une revanche sur tout ce qui m'était arrivé. Et que voilà, j'étais toujours là, toujours prêt à me battre, quoi. Et que voilà, tout fonctionnait. Autant le semi-marathon, c'était quelque chose de très personnel, hein, même si Florent m'a beaucoup soutenue dans cette entreprise-là. Mais voilà, le GR20, c'est quelque chose qu'on voulait faire à deux. Et ça nous a... Et c'est vrai que c'est super, c'est hyper bien à faire, parce que on fait plein de rencontres sur le voyage. On se fait des potes, y a des paysages qui sont absolument magnifiques. On est vraiment en communion avec la nature parce qu'on croise en plus très très peu de routes. Nous, on avait vraiment en ligne de mire l'arrivée, le fait de le faire en entier, de faire ça pour nous. Et évidemment, Timothée nous a jamais quittés dans nos pensées. Hein, mais voilà, on voulait plutôt faire ça pour notre couple. Et nous, on l'a vraiment vécu comme un peu la dernière étape de notre vie sans enfant, parce qu'on savait qu'on voulait de nouveau tenter de refaire un enfant juste après. C'était aussi une manière symbolique de clore un peu ce chapitre de cette année sans enfant, hein, qui se terminait. Et voilà, et ça a été absolument magnifique, quoi. Tous ces challenges m'ont permis de faire passer cette année qui a été la pire année de ma vie, mais aussi de l'égayer et de faire en sorte que cette année ne soit pas une année perdue, pas une année qu'on a envie de jeter à la poubelle, mais et de se dire qu'on a accompli des choses, quoi. Il y a eu des challenges sportifs, évidemment. On s'est aussi retrouvés en tant que couple. On s'est remis à faire des projets. Et voilà, c'était quand même une année qui a été, qui a généré plein de bonnes choses.
Ton petit cœur a cédé sur la table d'accouchement. On m'a envoyé texte filtré en 2-3 mouvements. Le ventre ouvert et endormi, je n'ai pas.
Et voilà, c'est pour ça aussi qu'on avait besoin de faire tous ces challenges.
Et ça n'a pas manqué, même
pour faire passer le temps, bien sûr, pour se retrouver.
On ne m'a pourtant jamais dit que ça pouvait arriver le plus beau jour de ta vie.
Et voilà, pour se sentir vraiment vivant. Quand on a rencontré la mort, hein, et la mort de ses enfants, on n'a qu'une envie, c'est de se sentir en vie, en fait.
Depuis, toutes les nuits, j'aperçois son visage. Malgré les intempéries, je survis.
Et puis, au challenge musical. En fait, ça fait un moment que je fais de la musique. Il se trouve qu'avec Florent, on s'est même rencontré dans une asso musicale quand on était étudiants. À la suite de ça, moi, j'ai été dans un groupe où voilà, on a sorti un album et un EP de compositions, de chansons qu'on avait écrites. Et moi, j'ai écrit quelques-unes de ces chansons, et notamment j'écris beaucoup de textes et d'airs de musique. Au début, j'écrivais que en anglais parce que je trouvais que c'était plus facile pour raconter n'importe quoi et que ça passe, parce que forcément, dès qu'on écrit en français, les gens écoutent ce qu'on raconte, et bon, il faut être sûr qu'on raconte pas trop de bêtises. Mais à chaque fois que j'écrivais toujours des histoires qui n'étaient pas les miennes, parce que je considérais que ma vie n'était pas spécialement intéressante à raconter, hein. Quand tout va bien dans notre vie, qu'on est heureux en couple, pas spécialement envie d'écrire une chanson. Enfin, moi, en tout cas, c'était pas mon objectif. Et puis, voilà, je suis quand même quelqu'un d'assez pudique. En tout cas, je l'étais avant la mort de Timothée. Et donc, j'avais pas spécialement envie de parler de moi. Mais là, vraiment, d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose à raconter. Mais l'idée de la chanson, contrairement à tous les autres défis dont j'ai parlé, c'est pas venu tout de suite. Enfin, je me suis dit, faudrait que j'écrive quelque chose, mais voilà, typiquement le jour de la mort de Timothée, à un moment donné, Florent, qui avait apporté une enceinte, a commencé à mettre une musique, et moi je me suis effondrée en larmes, parce que la musique c'était pas possible, c'était trop tôt, mais je me suis dit, ah, peut-être qu'un jour j'en écrirai quelque chose, mais je pense que pour ça, pour écrire une chanson, il fallait que je me pardonne déjà à moi-même ce qui s'était passé, pour me laisser une chance d'écrire quelque chose qui soit quand même qui est quand même du positif, même si voilà, c'est sûr que ce sera pas une chanson joyeuse. Et puis un jour justement Florent il me dit, ah mais quand est-ce que t'écris une chanson toi, alors qu'on en avait jamais spécialement parlé, mais sur le coup j'étais là, je sais pas, je sens pas, si j'écris un truc ce sera trop déprimant, etc. Et puis un jour je me suis assise à mon piano et puis c'est parti tout seul, et en une journée j'ai tout écrit. Et donc dans cette chanson, j'avais envie en fait de certes de raconter mon histoire, mais surtout de rendre hommage à Timothée que j'aimerais toute ma vie bien sûr, mais aussi à Florent, mon amoureux qui a été mon rock pendant toute cette histoire. Et voilà, je pense que maintenant notre couple il est éprouvé. Et on sait qu'il pourra plus jamais rien nous arriver. Enfin, je sais pas. C'est pour ça que j'ai appelé cette chanson Invincible, parce que maintenant je sens qu'il n'y a plus rien qui pourra nous atteindre tous les deux, parce qu'on est hyper fort et que l'amour est plus fort que tout. Voilà, tout simplement. Mais dans cette histoire, je parle aussi bien sûr de Timothée. J'avais aussi envie de déconstruire un peu l'image qu'on se fait de la grossesse et de l'accouchement. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à notre grossesse et qui nous donnent plein de conseils, qui nous disent des choses. Ah, tu vas donner la vie, c'est merveilleux. J'avais envie d'un peu déconstruire ces choses-là parce que toutes les histoires ne se terminent pas bien et c'est quand même important de le savoir. Donc oui, il y a des gens, la plupart des gens donnent la vie, mais moi j'ai donné la mort parce que, voilà, j'ai utilisé cette expression qui dérange d'ailleurs beaucoup. Parce que moi, c'est pas la vie qui est sortie de moi, c'est la mort, quoi. Et certes, c'est pas de ma faute, mais c'est ça qui s'est passé. Et il faut appeler un chat, et mon enfant est mort, et c'est comme ça. J'ai parlé aussi voilà, du premier cri, qui n'était pas celui de mon enfant, mais qui était le mien quand on m'a annoncé sa mort. Voilà, j'ai voulu un peu déconstruire toutes ces images-là pour rappeler que toutes les histoires ne se terminent pas bien. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle n'est pas terminée, cette histoire, et qu'elle continue. Aujourd'hui, je suis de nouveau enceinte. Donc, c'est vrai que cette grossesse est un challenge en tant que tel. J'ai eu la chance de tomber enceinte pas longtemps après notre aventure en Corse. Donc, tout s'est vraiment passé dans l'ordre qu'on avait imaginé. Donc, ça, c'est très, très positif. Je me déchallenge. Alors, je m'en fixe pas spécialement des très, très ambitieux, hein, sachant que voilà, j'ai refait un peu de musique. Car on a eu les 20 ans de l'association dans laquelle on s'est rencontrés avec Florent. dans lesquelles j'ai participé, j'ai aidé à écrire des textes aussi. Voilà, je me donne quand même des petits défis, mais au niveau du sport, je fais quand même attention à moi, car j'ai envie de réussir cette grossesse à tout prix. Et on a aussi un autre gros challenge, c'est qu'on achète une maison, on a beaucoup de travaux à prévoir. Et voilà, maintenant, j'ai envie de me projeter dans cette nouvelle vie, cette nouvelle page que je vais écrire avec Florent, avec Timothée dans mon cœur. Et c'est donc ce nouvel enfant qui, je l'espère et j'en suis sûre, sera un enfant en parfaite santé.
Ce premier épisode de la série Les Challenges du deuil périnatal s'achève et je tiens à remercier Clémentine pour son témoignage. Vous pouvez écouter sa chanson en intégralité à la toute fin de cet épisode ou sur sa page Instagram, je vous mets le lien dans la description. Je suis Sophie de Chivray et j'ai eu le plaisir de réaliser, monter et mixer cet épisode. Alors si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et d'offrir à ce projet une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Pour m'aider à financer le podcast et les dépenses qui y sont liées, vous pouvez aussi me donner un petit coup de pouce sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Rendez-vous sur Tipeee. tipeee.com/au revoir podcast pour en savoir plus. Je vous remercie pour votre écoute et votre soutien et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode inédit. En attendant, n'hésitez pas à suivre l'actualité d'Au Revoir Podcast sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire pour lever le voile sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.
On m'avait parlé des larmes, des cris du vacarme. On a évoqué la douleur et les plaies extérieures. On m'avait dit, tu oublieras quand tu le prendras dans tes bras. On m'avait dit que cet amour existerait toujours. Il y a eu mes cris puis nos pleurs, une ambiance anxiogène. Ça fait très mal sur ton cœur d'avoir tant de peine. Je l'ai aimé immédiatement comme s'il m'avait jeté un sort. Je suis quand même devenue maman le jour où j'ai donné la mort. Dépasser.